Sous la couverture. Philippe Venturini. Aujourd'hui, je reçois Olivier Beaumont. Les amateurs de grands siècles et du premier XVIIIe siècle ont lu ou tout du moins feuilleté ces écrits comme autant d'instantanés tracés d'une plume souvent vinaigrée sur la vie de la cour française. Mon invité, Olivier Beaumont, propose aujourd'hui non pas de relire les mémoires de Saint-Simon, mais plutôt de les écouter, d'écouter la musique à travers la plume de Saint-Simon, à l'occasion d'un livre qui vient de paraître aux éditions Gallimard, à l'opéra Monsieur, la musique dans les mémoires de Saint-Simon. Les arts florissants placés sous la direction de William Christie interprétaient cette ouverture des plaisirs de Versailles de Marc-Antoine Charpentier. Vous l'avez deviné, nous serons en grande partie à Versailles durant cette demi-heure en compagnie de mon invité Olivier Beaumont. Bonjour Olivier Beaumont.
Bonjour Philippe.
Les auditeurs de France Musique vous connaissent bien, vous êtes claveciniste, vous tenez la classe de clavecin au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, vous êtes également auteur de plusieurs livres, notamment une monographie de Couperin et un très beau livre sur la musique à Versailles. Vous venez donc de publier chez Gallimard à l'opéra Monsieur, la musique et dans les mémoires de Saint-Simon. D'où est venue cette idée effectivement passionnante de scruter, d'analyser ces quelques 2700 pages, je crois, manuscrites hein, de mémoires de Saint-Simon et d'en retenir un peu les évocations musicales?
Bien, l'idée m'est venue en fait en travaillant sur mon livre sur la musique à Versailles, justement, qui est paru en 2007. Et tout simplement parce que les gens disent habituellement qu'il n'y a rien sur la musique dans les mémoires de Saint-Simon. Donc je pense que j'avais été un peu intrigué par ça. Il suffit qu'on me dise ça pour que j'ai envie d'aller chercher, justement.
Sur le contraire.
Et j'ai été réellement intrigué par quelques passages absolument splendides sur la musique, d'ailleurs souvent peu connus, d'autres qui sont fréquemment cités, mais certains qui étaient peu connus. Donc j'ai décidé de faire une espèce de sondage, on pourrait dire, sur le premier tome de Pléiade. Il faut rappeler qu'il y a donc 8 tomes de Pléiade,
oui.
Donc quelque chose comme 7400 personnages, je pense. Et sur le premier tome, donc sur les 800 pages, il y avait 80 occurrences sur la musique, donc une occurrence toutes les 10 pages. Donc, étendue sur 8 volumes, on a un corpus très impressionnant. Alors évidemment, je dis tout de suite qu'il s'agit plutôt d'un corpus avec musique qu'un corpus de musique, c'est-à-dire souvent ce sont des histoires pendant la musique, des histoires au moment de la musique, plus que des histoires de musique. Mais il y a un parcours musical et aussi chorégraphique extrêmement important et qui apporte, je crois, une coloration un peu différente à la fois sur Saint-Simon, mais bien sûr aussi sur l'époque et sur la musique elle-même, qui n'est pas si connue que ça et qui est toujours tellement difficile à apprécier au sens fort du terme.
Alors, quelle époque couvre exactement ces mémoires de Saint-Simon, Olivier?
Alors, donc, les mémoires couvrent de 1691 à 1723, au moment de la de la mort du régent de Philippe d'Orléans, grand ami de Saint-Simon. Cela dit, les mémoires ont été élaborées bien après, puisque c'est en plein XVIIIe siècle que Saint-Simon écrit ça, entre 1739 et 1749-50, interrompu au moment de la mort de sa femme, enfin deux fois interrompu. Mais donc c'est bien un écrivain du XVIIIe siècle qui nous parle, mais qui fait une espèce de retour en arrière de recherche du temps passé, on va dire, pour réécrire les périodes où il a été très actif, et notamment au moment de la régence, où il fait partie du conseil de régence.
Rappelons en effet que Saint-Simon est né en 1675, de son vrai nom Louis de Rouvroy. Il était très proche et presque, vous dire, frère, entre grosses guillemets, du régent. Quel crédit peut-on apporter à ces écrits qui ont été quand même couchés sur le papier des années après les faits qui sont relatés, comme vous venez de nous le dire?
Alors, il faut dire qu'il fait recopier le fameux journal de D'Anjou, de Marquis de D'Anjou, dont on sait tous qu'il est à la fois extrêmement précis, sans aucune vision, sans aucune appréciation personnelle. D'ailleurs, Saint-Simon a une sorte de mépris absolu pour le journal de Marquis de D'Anjou. Il met les annotations, les fameuses additions au journal de D'Anjou, qui sont publiées dans la Pléiade également, qu'il a aussi fourmi d'indications intéressantes. Mais cela dit, D'Anjou lui permet de ne pas commettre d'erreurs chronologiques, tout simplement. C'est un peu comme si Saint-Simon était compositeur, prenait un traité de contrepoint un peu ennuyeux, mais utile pour ne pas commettre de fautes d'écriture.
Les grâces incomparables ou la Conti, extrait du troisième livre de pièces de clavecin de François Couperin, par mon invité Olivier Beaumont. Alors Olivier Beaumont, revenons à ce livre, à l'opéra Monsieur la musique dans les mémoires de Saint-Simon qui vient de paraître chez Gallimard. Il y est notamment question de portraits en musique. Comment avez-vous organisé, une fois que vous avez pioché, récupéré toutes ces informations à travers donc les 8 tomes disponibles dans l'édition de la Pléiade, ces mémoires de Saint-Simon, comment avez-vous voulu les distribuer, les organiser?
Ben, c'était exactement la question, c'est comment trouver le plan. Donc vous savez qu'en 2014, j'étais en résidence au château de Chambord pour écrire ce livre d'ailleurs. Donc le domaine national de Chambord a contribué aussi à l'élaboration de ce livre. Et j'ai d'abord eu l'idée de faire une chose tout simplement chronologique pour les choses qui étaient des récits avec musique, donc des choses qui rentraient dans la vie de la cour, dans l'histoire de la cour. Donc il y a une première grande partie sur Louis XIV, une deuxième partie un peu plus courte, et pour cause, pour la régence, parce que tout simplement on a moins d'années. Et ensuite le troisième chapitre est plutôt consacré aux portraits, parce qu'il y a beaucoup de portraits avec musique, c'est-à-dire des personnages qui sont présentés, on pourrait dire, avec les attributs de la musique ou de la danse, un peu semblable au salon avant l'heure qu'on avait dans la Grande Galerie au Louvre. Le terme salon est plus tardif au XVIIIe, enfin on avait ces expositions de l'Académie Royale de Peinture. Donc c'est un peu cette idée, une sorte de galerie de portraits, mais souvent dans bien des cas beaucoup moins avantageux et moins séduisante chez Saint-Simon que c'est les peintres portraitistes de Louis XIV. Et puis un quatrième chapitre auquel je tenais également, qui s'intitule Les mots de la musique pour écrire l'histoire, parce que pour quelqu'un qui était censé, il dit lui-même Saint-Simon qu'il n'était pas un homme de musique et de spectacle, mais cela dit, il utilise une terminologie musicale, tout un arsenal d'images et de métaphores pour raconter autre chose, qui témoigne pour le moins d'une connaissance, d'une certaine appréciation de la musique. Je cite un seul exemple magnifique pour un succès surprenant en Flandre, par exemple. Il dit que c'est semblable à un changement de décor d'opéra, de théâtre d'opéra. Donc il y a des choses magnifiques comme ça, où tel personnage qui est un raffiné musicien pour un de ses ennemis, mais qui est d'ailleurs pas du tout très péjoratif dans sa bouche, où il utilise la fameuse corde qui vibre, toujours quand il parle avec Ludwig de Bourgogne. Donc il y a toutes des métaphores instrumentales, vocales, souvent d'ailleurs pas très flatteuses pour le monde du spectacle, pour les musiciens, mais qui est passionnante pour nous parce qu'effectivement c'est une utilisation du verbe de Saint-Simon qu'on ne connaît pas toujours.
Mais il n'y a pas de portrait de musicien au sens où on pourrait s'attendre à avoir quelques impressions sur, je sais pas, un Couperin, de Lalande ou...
Non, il cite des touches parce que tout simplement on avait hissé pour le mariage du duc de Bourgogne en 1697, donc il cite cet opéra, il cite de Lalande, il cite Lully bien sûr, il cite Mademoiselle de Ménétou, mais il ne la cite pas du tout en tant que compositrice, c'est élève de Couperin, enfant prodige, qui a publié des airs à boire, était enfant, on a quelques petites manuscrits d'elle, mais il la cite uniquement parce que c'était la fille du duc et l'échesse de la Ferté. Il est d'ailleurs terrible avec elle, avec sa mère. Il dit que sa mère était une égueulée épouvantable, s'il y a quelqu'un qui utilise des mots très grossiers, et qu'elle-même, avant son mariage, avait un peu rôti le balai. Les auditeurs me pardonneront cette expression, c'est pas de moi, c'est Saint-Simon, mais qu'elle commençait à pousser en graines. Donc on voit là tout de suite que le verbe chez Saint-Simon est toujours terrible. Donc il parle de Mademoiselle Ménétou, mais pas à la façon de cette belle pièce de François Couperin, mais d'une façon beaucoup plus crue et parfois complètement dérangeante.
Mais quel est, vous venez de le dire, Olivier Beaumont, qu'il se disait qu'il n'était pas homme de musique, homme d'opéra, mais quelle était sa compétence musicale? Est-ce qu'il en avait une? Est-ce qu'il avait une formation musicale?
Alors, c'est la grande question. Il avait une formation de danse, ça c'est sûr. La danse traverse constamment les mémoires. On a, je dirais, trois choses pour les mémoires, trois étapes. La première en 1692, où il dit lui-même, c'est la première fois que je dansais chez le roi, au moment du mariage du duc de Chartres, donc futur duc d'Orléans et futur Réchon, grand ami de Saint-Simon. Il décide, avec Madame de Saint-Simon, d'arrêter la danse en 1708, précisément. D'ailleurs, Louis XIV n'est pas content, parce que la cour vieillissant un peu, il demande aux gens de danser ayant dépassé l'âge. Et comme les Saint-Simon prennent décision de pas danser, la sanction est immédiate, ils ne sont plus invités à Marly. On sait que Marly était l'honneur suprême d'être invité auprès du roi à Marly. Donc il dit très clairement, pas de Marly pour nous. Et puis une toute dernière fois, il danse une toute dernière fois en Espagne, lorsqu'il est ambassadeur extraordinaire en Espagne. Et là où, à la demande de Philippe V et Elisabeth Farnèse, on l'oblige à danser. Et donc c'est une espèce de dernier tour de piste, on pourrait dire. Et il dit cette belle phrase, j'ai dansé, je m'en tirais comme je pus. Ce qui est assez lucide sur son parcours de danseur. Cela dit, il était effectivement un bon danseur. Les avis chorégraphiques qu'il a sur la danse sont généralement assez avisés. Il connaissait bien les menus, les contredanses, les branles, toutes les danses que dansaient les aristocrates. À la fois dans les grands bals réglés mais aussi dans les mascarades. Donc il a une vraie compétence pour la danse. La musique, c'est évidemment plus ambigu dans le sens qu'il n'était pas un homme de musique. Il savait sans doute pas lire une partition. Mais il a quelquefois des avis intéressants, mais qui sont toujours un peu en fonction de ce qu'il pense de la personne. C'est-à-dire que, comme par hasard, Louis XIII, qu'il admirait beaucoup, qui a fait duc du père, donc son père, du Saint-Simon, il le trouve toujours très bien. Il apprécie beaucoup chez Louis XIII le fait qu'il aimait l'art du chanteur de Nières. En revanche, il trouve que Louis XIV n'avait ni voix ni musique. C'est-à-dire que la musique dans Bernard Cage Saint-Simon lui permet d'argumenter encore plus ce qu'il pense sur les personnes ou sur les régions. C'est-à-dire qu'à la fin du règne de Louis XIV, il trouve que non seulement le roi Soleil a un bilan mitigé, et en plus, il chante faux. Donc, comme si ça ajoutait quelque chose à la critique sur Louis XIV. Donc, il y a une espèce de psychologie musicale comme ça chez Saint-Simon, où la musique lui sert à louer ou au contraire à critiquer tel ou tel lieu de musique, ou de comme Sceaux, par exemple, demeure du duc et les chaises du Maine, qui est l'objet de toutes les critiques de Saint-Simon, et donc de la musique qui était entendue. Et puis, des personnages aussi où la musique lui permet soit de flatter, soit de critiquer.
Un extrait des Folies de Gardenio de Michel Richard de Lalande, interprété par l'ensemble baroque de Limoges, placé sous la direction de Christophe Coin-Olivier Beaumont. Cette musique que l'on vient d'entendre est très martiale, plutôt propre au plein air qu'à l'intimité des théâtres. Et une bonne partie, en tout cas la première partie de votre livre, nous fait entendre les différentes atmosphères, les différents lieux où on peut écouter de la musique à la cour, à la cour de Versailles, celle de Louis XIV, que ce soit dans l'intimité de la chambre, au contraire, dans le plein air ou à l'occasion de Te Deum. Comment avez-vous justement organisé à nouveau ces différentes recensions des mémoires de Saint-Simon ?
Pour Louis XIV, je suis parti d'abord de chez le roi, donc les lieux évidemment à Versailles, donc les soirées d'appartement, où ce qui est intéressant, encore une fois, Saint-Simon n'avait pas de fonction officielle à la cour de Louis XIV, c'est son épouse, la duchesse Saint-Simon, qui en 1710 est au service de la duchesse de Berry, donc la fille du régent qui épouse donc le troisième petit-fils de Louis XIV, le duc de Berry. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il était là tout le temps, et même sans prêter une oreille particulièrement importante, attentive à la musique, il en entendait tout le temps, et notamment ses récits sur les soirées d'appartement nous montre combien la musique n'était pas forcément secondaire, mais en tout cas seconde. C'est-à-dire qu'effectivement, on allait à l'appartement, ce qui était plus ou moins obligatoire, le roi désirait toujours qu'on y aille, donc le grand appartement du roi qu'on voit toujours aujourd'hui, bien sûr, à Versailles. Et donc là, on faisait avancer ses affaires, on rapprochait les sièges pour parler de telle ou telle chose, on faisait avancer des projets de mariage qu'il a même eu, lui. Il voulait épouser l'une des filles du duc de Beauvilliers, ça ne s'est finalement pas fait. Mais donc, tout ça se fait pendant les soirées d'appartement et pendant la musique. Donc, Saint-Simon nous apprend aussi de quelle façon on entendait la musique, de quelle façon on la vivait tous les jours, cette sorte d'incroyable bande originale, on pourrait dire, du règne de Louis XIV, qui accompagne tout le temps la vie des courtisans. Et ça, le règne de Louis XIV, chez Saint-Simon, nous le montre bien. Donc il y a beaucoup de récits, donc je l'appellerai chez le roi, à Marly aussi, bien sûr, à Trianon, à Fontainebleau, Hors de chez les Rois, il y a des endroits en Île-de-France où ils parlent de musique. Je pense au château de Saint-Cloud, chez Monsieur et Madame. Le château de Sceaux, donc duc du Maine, donc bâtard, entre guillemets, enfant légitimé de Louis XIV, donc, qui déclenche les foudres de Saint-Simon, on le sait, et les fameuses fêtes organisées par la duchesse du Maine. Voilà. On a aussi Petitbourg, qui est le château du fils du marquis d'Antin, donc, qui était le fils de Madame de Montespan et de Monsieur de Montespan, une fois n'est pas coutume, mais donc ils ont eu quand même un enfant ensemble. Et puis, donc d'autres endroits. Évidemment, ensuite, quand il est en campagne militaire, le début de sa carrière est militaire, donc on a aussi beaucoup de renseignements sur les musiques militaires, ce qu'on appelait les bruits de guerre, qu'on retrouve d'ailleurs chez François Couperin, par exemple. On a ça, des musiques à l'étranger aussi. Et puis, ensuite, donc, pour la période de la Régence, c'est plus essentiellement à Paris. On a évidemment des récits à Paris, notamment à l'opéra, avec cette promiscuité, on pourrait dire, que déplore Saint-Simon entre le Palais Royal, demeure des Orléans depuis longtemps, et l'opéra, la Compagnie Royale de Musique, puisque le régent allait même de son appartement par de plein pied, il allait à sa petite loge à l'opéra.
Il faut bien se rendre compte, effectivement, c'était dans le même bâtiment, voilà, ce qui est aujourd'hui Conseil d'État.
Exactement, et c'est pour ça que mon titre est donc une phrase à la fois que Saint-Simon a écrite, mais surtout qu'il a dite à l'Opéra Monsieur. On est en 1717, donc là, enfin, si je puis dire, Saint-Simon a une responsabilité, il fait partie du Conseil de Régence, et là, le duc d'Orléans, le régent veut l'amener dans sa petite loge pour parler politique et religion. Et il s'en offusse, Saint-Simon, et curieusement, on sait que le régent était compositeur d'opéra, très amateur d'ouvrages lyriques, et celui qui respectait le plus ce jour-là la Compagnie Royale de Musique n'est pas celui qu'on pourrait croire, et Saint-Simon s'offusque en disant, mais écoutez, l'opéra n'est pas fait pour ça, l'opéra est fait pour voir, être vu, et pas du tout pour se donner en spectacle, au spectacle même, magnifique répétition. Et donc, on a ici des très belles définitions. Ce qui intéresse Saint-Simon, c'est amusant d'ailleurs, il faut bien se souvenir qu'à ce moment-là, les salles de spectacle étaient toujours éclairées, sans doute jusqu'à l'invention de l'électricité, j'imagine. Enfin, on n'avait pas, évidemment, le noir au moment du spectacle. Donc, tout se voyait dans tous les sens. Donc, ce qui intéresse Saint-Simon, ce n'est pas tellement tel opéra vu de toutes les loges, mais c'est plutôt telle loge vue de tout l'opéra. C'est plutôt ça qui l'intéresse.
Oui, c'est le spectacle du théâtre, en fait, et non pas le spectacle qui est sur scène.
Ouais. Et qui va, bien sûr, c'est déjà un peu sous le règne de Louis XIV, mais ça devient de plus en plus important au temps de la Régence.
Charme ma puissance, laisse dérobe mon amour, que ma fière sorme encore en ce jour, à l'enfant c'est sa résistance. Partez, partez.
Guillemette Laurence, la symphonie du Marais, placée sous la direction de Hugo Rennes, interprétait cet extrait de Ulysse de Jean Ferry, Rebel. Olivier Beaumont, cet ouvrage figure dans la bibliothèque musicale du duc de Saint-Simon. Vous l'avez détaillé, page 133-134. On retrouve les grands noms des compositeurs de l'époque. Lully, évidemment, Marin Marais, c'est donc ce même Rebel, mais aussi Mouret, Jacquet de la Guerre, Destouches. Qu'est-ce que cet inventaire nous apprend sur le rapport de Saint-Simon avec la musique, puisqu'il se disait ne pas être homme de musique, vous le disiez lui-même, il était très certainement pas compétent en matière de musique, alors pourquoi avoir une telle bibliothèque musicale? C'était un peu le fait de l'époque.
C'est effectivement surprenant si on considère le Saint-Simon mémorialiste. Ce travail a été mis à jour par Philippe Pourcade, qui est l'un des grands spécialistes de Saint-Simon, qui a parlé de cette bibliothèque. Moi, je propose simplement quelques idées dans mon livre. Effectivement, on a à sa mort une soixantaine d'ouvrages lyriques. C'est drôle de voir comme souvent les biographes même de Saint-Simon. Certains ont même dit que c'était des livrets d'opéra, mais ce ne sont pas du tout des livrets d'opéra, ce sont véritablement des partitions. Alors est-ce que ça vient de lui? Est-ce que ça vient de la duchesse de Saint-Simon? Est-ce que ça vient de sa mère? Je pense qu'il faut se dire que c'est une bibliothèque, hein, une sorte de gros corpus de partitions, qui est un peu surprenante si on considère le Saint-Simon mémorialiste, mais elle est moins surprenante si on considère le Saint-Simon aristocrate du grand siècle et des Lumières, qui se doit d'avoir une bibliothèque composite, et donc avec en musique, quoi donc, c'est-à-dire en fait les partitions éditées chez les Ballard et des opéras à l'Académie royale de musique. Donc je dirais que presque c'est une bibliothèque musicale presque normale pour quelqu'un du rang de Saint-Simon. Donc c'est peut-être moins surprenant si on le considère comme ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus considérer cet ensemble comme un tout fini, mais plutôt une sorte de bibliothèque composée au fur et à mesure de sa vie. Certaines choses sont troublantes. Par exemple, il avait le manuscrit de Panté de Philippe d'Orléans. Et là, comment a pu venir le manuscrit de Panté? Est-ce que ça a été donné par le régent, par son ami, directement à son ami, lui-même Saint-Simon? Est-ce que c'est une chose que le régent avait offert à sa fille, la duchesse de Berry, et qu'elle donnait à Sam de Nord, qui était la duchesse de Saint-Simon? Donc, je dis dans mon livre qu'il ne faut pas exagérer cette chose-là, mais il ne faut pas l'amoindrir non plus. On a effectivement cette soixantaine d'ouvrages lyriques, plus aussi une grosse histoire de la musique, qui était très connue à l'époque. Donc, ça nous donne aussi des idées. Alors, on trouve des traces de ça dans les mémoires, dans le sens qu'il cite plusieurs des opéras. Je pense à Issé, je pense notamment Panté, qui cite pas vraiment. Enfin, on se doute bien que c'est celui-ci dont il parle pour le duc d'Orléans. Il parle aussi de Phaéton, de Lully, à plusieurs reprises. Et puis très souvent, les comparaisons qu'il fait de certains personnages qu'il décrit avec des mythes, des dieux ou des demi-dieux de l'Antiquité, ce sont des personnages qu'on trouve dans les opéras tout le temps. Donc, ne dénions pas non plus à Saint-Simon une véritable culture lyrique, tout simplement parce qu'on en a des traces précises dans les mémoires.
Une dernière question, Olivier Beaumont. Au terme de ce travail sur la musique dans les mémoires de Saint-Simon, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce que ça, vous qui connaissez si bien cette période, est-ce que ça vous a apporté un éclairage nouveau sur cette période?
Oui, l'éclairage nouveau que ça m'a apporté, c'est tout simplement que comment quelqu'un qui n'était pas spécialement musicien vivait la musique, notamment à Versailles, puis ensuite sous la Régence. C'est-à-dire comment on l'entendait, de quelle façon on la considérait. Et je dirais que la surprise est là. C'est-à-dire que dans bien des cas, notamment je pense à ce merveilleux espèce de journal du roi jusqu'à sa fin, au moment de 1715, les mémoires, le récit chronologique s'arrête et on a cette grande récit du règne de Louis XIV. Et donc ce journal de la fin jusqu'au 1er septembre 1715, là on a cette alternance de petite et grande musique chez même de maintenant. Et ce que nous apprend Saint-Simon, c'est la façon dont la musique était tellement intégrée que le roi est pratiquement mort en musique, puisqu'il y a eu de la musique jusqu'au 25 août, à la fête de la Saint-Louis. Et donc on a vraiment cette incrustation très profonde de la musique, même pour les gens qui n'étaient pas. Et je pense que cette musique du grand siècle et du début des Lumières est tellement difficile à apprécier au sens propre du terme qu'il faut surtout négliger la voix de quelqu'un qui justement n'était pas très musicien, mais en revanche qui était tellement magnifique narrateur et écrivain qu'il peut nous apprendre sur la musique bien d'autres choses que des Dangeaux ou des commentateurs du Mercure qui sont souvent beaucoup plus plats.
Très bien, merci Olivier Beaumont. Je rappelle le titre de votre livre, donc à l'Opéra, Monsieur, la musique dans les mémoires de Saint-Simon, édité par Gallimard dans la collection L'Infini, la collection dirigée par Philippe Solers.
Voilà, exactement, on peut lui dire un grand merci.
Je remercie Delphine Baudet, Géraldine Prutner et Annick Aumier. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la programmation de cette émission sur notre site francemusique.fr.